J'aimerais ce matin tout d'abord vous souhaiter un joyeux Noël et vous dire aussi ma joie de vous retrouver. Sous le soleil de Platon, c'est reparti pour 2 semaines de Noël et on va essayer que ce soit un cadeau. Un cadeau sous un beau soleil d'hiver, avec au programme notamment la romancière et essayiste Nancy Houston, mais aussi le grand philosophe allemand Hartmut Rosa, le réalisateur Luc Jacquet et même le rappeur Giorgio. Mais je ne vous dis pas tout, je vous dis juste simplement que nous recevrons aussi une star mondiale de la psychothérapie, une ancienne lauréate de la Star Academy et peut-être même le fantôme de Jacques Brel. Mais vous verrez, ce sera un fantôme bien vivant. Mais j'aimerais ce matin tout d'abord vous raconter l'histoire d'une ville, ou plutôt l'histoire d'un homme. La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel, écrit Baudelaire. Mais lui, son combat, c'est que le hélas soit de trop. Il veut que la forme de nos villes change, mais en mieux. Que la ville soit plus vivante, réconciliée avec la nature, avec les végétaux, avec les arbres, et qu'en elle, nous réapprenions à vivre ensemble. Ensemble, entre nous, humains, mais aussi avec les végétaux, les animaux, les arbres, évidemment, mais également les sols, le climat, et même tous ces microclimats qui, d'après lui, font une ville. Vous l'avez compris, avec lui, ce n'est pas simplement la forme d'une ville qui doit changer, mais son essence, sa fonction et surtout notre manière de l'habiter. Il voit la ville comme un paysage augmenté, une force de résistance au changement climatique. Il voit la ville, mais d'abord, il la rêve, car c'est sa méthode et nous devrions tous nous en inspirer, rêver avant d'agir et finalement penser qu'on peut changer le monde, s'inspirer de la puissance de la nature, je dirais même de la manière dont la nature est une puissance pour créer la ville de demain. Mais attention, pas la créer ex nihilo, la créer ou la recréer à partir de ce qui est, à partir de l'existant. Pour en parler ce matin de ce que c'est qu'une ville, et même qu'une ville résiliente, une ville comme un paysage augmenté, j'ai la joie de recevoir un architecte, et même, ainsi qu'il se définit lui-même, un architecte de paysage. Auteur de réalisations d'envergure un peu partout dans le monde, à Londres, à Bruxelles, à Paris, à Arles, en Estonie, en Albanie, c'est lui, Bas Smet, qui a remporté le concours international pour aménager les abords de la cathédrale Notre-Dame de Paris après l'incendie de 2019, avec un projet dont nous allons parler, un projet qui fait rêver, mais qui fait aussi polémique. Bas Smet, donc, architecte belge, étoile montante de l'architecture paysagiste, qui nous a rejoint ce matin sous le soleil de Platon, dans la caverne pas encore suffisamment végétalisée de France Inter, pour nous aider à répondre à cette belle question: comment repenser les relations de la ville et de la nature? Comment mieux habiter les paysages urbains que sont nos villes?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Bas Smet.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, merci.
Ben c'est un plaisir de vous recevoir, moi j'adore vos travaux. Vous vous définissez vous-même comme un architecte de paysage. Alors avant de parler de Notre-Dame de Paris, et notamment du cours que vous donnez à Harvard sur notre belle ville Paris, expliquez-nous un peu ce que ça veut dire un architecte de paysage.
Un architecte de paysage imagine, conçoit, rêve de paysage et les construit ensuite. Et j'aime bien revenir à cette distinction entre pays et paysage qu'avait défini Alain Roger dans son livre « Court traité du paysage » où il dit « le pays est le point zéro et le paysage est ce qu'on en fait ». Et j'aime bien cette idée que cette transformation est avant tout une transformation ou un processus culturel. D'ailleurs, le mot « paysage » a été utilisé pour la première fois dans le XVIe siècle. Il vient du néerlandais, « landschap ». Landschaft, landscape, paysage, et voulait désigner un nouveau genre dans la peinture.
La peinture flamande, c'est ça ?
La peinture flamande, ou avec l'influence des peintres italiens, des Van der Weyden, des Van Eyck, ils ont commencé à créer des fenêtres dans leur peinture pour montrer un paysage imaginé. Le moment que ce paysage devient indépendant et que, quelque part, le background devient le foreground, avec Pattenir, par exemple, Joachim Pattenir, ce nouveau genre voit la lumière et on l'appelle paysage. Et je trouve très intéressant, on l'a oublié, que le paysage est un mot qui désigne une façon de voir la réalité et pas la réalité physique.
C'est passionnant, oui. En fait, le pays, c'est la réalité physique. Le paysage, c'est la façon dont on le voit.
Exactement.
Donc, on comprend mieux votre métier. Vous devez d'abord voir la ville d'une certaine manière, et après essayer de la construire.
Exactement, et j'appelle ça révéler l'existant. Pour passer de Alain Roger à Marcel Duchamp, Marcel Duchamp disait « l'invisible est le visible et qui n'est pas encore perçu ». et je crois fortement à ça.
Ouais, et d'ailleurs, c'est incroyable parce que dans toutes vos réalisations, souvent, vous faites advenir quelque chose qui était un peu présent dans le sol, mais qu'on ne voyait pas. Et c'est ça qui est très paradoxal dans votre approche, c'est que vous concevez une architecture qui est presque géologique. On a l'impression que vous allez chercher la vérité du sol pour en fait la faire émerger, même à travers des monuments ou à travers le plan d'une ville. Racontez-nous un peu ça.
On cherche à comprendre la vocation d'un lieu. Et c'est très inspiré de la nature, parce que dans la nature, il y a la théorie du climax.
Ouais.
Et le climax, ça veut dire que pour n'importe quel lieu, on sait, si on ne touche pas à ce lieu pendant 400 ans, on sait quel type d'arbre va venir. Parce que c'est lié à la latitude, c'est lié à la localisation.
Et au sol aussi, j'imagine.
Et au sol. Ouais. Mais le sol peut être produit par les végétaux. Même s'il n'y a pas de sol, par exemple, un terrain industriel, vous ne touchez pas pendant 400 ans, je peux vous dire, si vous me dites où il est, quels arbres vont arriver. D'abord, il y aura des plantes pionnières qui vont créer de l'humus, et du coup, même sans sol, les plantes vont produire du sol, et du coup...
Donc on produit de la nature, quand même. Si on plante, par exemple, ces arbres volontairement.
Exactement, et du coup, ce climax, qui est un processus naturel sans intervention de l'homme, on peut la comprendre et l'accélérer.
C'est
ce qu'on a fait notamment à Arles, sur un terrain industriel. On s'est dit, qu'est-ce que la nature aurait fait et comment on peut accélérer ce processus naturel?
C'est génial. Alors justement, racontez-nous un peu ce projet à Arles qui est fini, la fondation Luma, parce que je crois qu'on va bien comprendre votre démarche grâce à ce détail de ce projet. Et après, on va essayer de comprendre si vous allez faire la même chose à Paris, au niveau de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Alors, un projet n'est jamais fini, pas dans le paysage.
Justement, oui, c'est vrai que ça continue à pousser.
Oui, et d'ailleurs, et je le rappelle souvent à mes clients, le pire moment pour nous, c'est quand c'est fini. Je veux dire, quand le projet est fini, parce que c'est que le début d'un organisme vivant qui va se développer et qui continuera à se développer. Par exemple, Central Park, tant qu'on la voit aujourd'hui, Olmsted, le paysagiste qui l'a conçu, ne l'a jamais vu. Du coup, c'est ça qui est intéressant aussi, que la conception du paysage nous dépasse complètement.
Et vous avez aussi ce souci de la durabilité et du fait que ce que vous créez puisse vivre longtemps en évoluant. Une ville est vivante, en fait.
Absolument. Il n'y a pas d'image fixe, mais il y a un processus. On conçoit le processus qui va produire des images à travers le temps, mais aussi à travers les saisons. Parce que, évidemment, en automne, le paysage est très différent qu'au printemps.
Juste, racontez-nous ce que vous avez fait à Luma, parce que ce que j'ai cru comprendre, qui est complètement dingue, c'est que vous avez recréé une sorte de climat qui n'était pas le climat naturel, et vous avez permis à cette chose d'advenir. Racontez-nous un peu ça.
Alors Luma, c'est vraiment une expérimentation
à
grande échelle, à Arles, et c'est sur le parc des ateliers. C'est un terrain industriel délaissé qui a été créé par les ingénieurs de la SNCF en 1840, utilisé pour réparer des locomotives. Et du coup, ce qu'ils avaient fait, en fait, ils avaient créé un terrain plat, 10 hectares. Ils avaient, avec la dynamite, ils avaient coupé dans le rocher pour avoir ce terrain tout plat, qui veut dire qu'il n'y avait ni terre ni eau. Et je suis invité par Maya Hoffman en 2009.
Ouais.
Et je me souviens, on descend en avril sous un soleil déjà plombant sur le terrain. Et Maya Hoffman, qui est la fondatrice de la Fondation Luma, me dit, j'aimerais bien créer un parc pour les Arlésiens, pour les visiteurs de la Fondation. Qu'est-ce que tu peux nous proposer? Je me souviens, je disais, mais ici, dans ce terrain industriel où il y avait pas un arbre, il faisait chaud.
C'était conjonctulaire, aride. Ouais.
Et le Mistral, en fait, très compliqué pour les plantes. Et je me suis dit,
en même temps pour un architecte.
Oui, le challenge ne pouvait pas être plus grand. Et je me suis dit, dès le début, je me souviens, il faut d'abord changer le climat avant de produire un parc.
Changer le climat
parce que, à cause du fait d'avoir créé cette dalle en béton, en fait, il y avait une absorption d'énergie solaire qui était transmise par radiation. Du coup, on marchait sur une plaque chauffée.
Voilà.
En fait.
Et comment vous avez fait alors?
On s'est dit, qu'est-ce qu'aurait fait la nature? On a étudié le vent, on a étudié le cours du soleil, on a étudié les plantes autour de Arles. Et il y a quelque chose de très important, c'est que après le retrait de la glace, en fait, la vie d'animaux, mais aussi de plantes, est revenue en Europe à travers le Rhône, en fait. C'est le Rhône qui était vraiment le passage de la vie. Et du coup, ce qu'on trouve autour de Arles, c'est différentes natures réellement très différentes. Par exemple, ce qui se passe dans les Alpilles, qui est la branche sud des Alpes, c'est très différent de ce qui se passe dans la Camargue. La Camargue, qui est la plaine estuaire du Rhône. Et encore, il y a la Crau, qui est l'ancien lit de fleuve d'un glacier, en fait, l'ancien cours de la Durance. Et du coup, on a un peu toutes les stratégies qu'ont développé les plantes depuis 20 000 ans, qui se trouve autour de Arles. D'ailleurs, on s'est rendu compte que...
Autour de Arles, mais pas à l'endroit en question que vous devez réaménager.
Non, qui était complètement vide. Et voilà. Du coup, j'ai dit, c'est quand même incroyable de voir ce canevas vide de 10 hectares avec rien, ouais. Et autour, une des régions les plus riches en termes de plantes et d'animaux. Du coup, on s'est dit, qu'est-ce que la nature aurait fait? Et du coup, on a modélisé le vent.
Déjà, je vous arrête. C'est génial comme question. Qu'un architecte, paysagiste en l'occurrence, se dise, mais qu'est-ce que la nature aurait fait? Déjà, c'est une belle question.
Oui, parce qu'on s'est dit, si on aide la nature à faire ce qu'elle a envie de faire de toute façon, on va y aller plus rapidement, ouais. Et plus facilement. Parce qu'on savait que c'était compliqué de même, on pouvait pas planter un seul arbre sur cette place parce qu'il, ouais. Il allait brûler dans ce désert. Officiellement, c'est un semi-désert. C'est un climat d'un semi-désert. Et du coup, on a imaginé que le Mistral, ce vent qui vient du nord, qu'il aura amené des sédimentations et qu'une sorte de topographie allait se créer à l'image, par exemple, des dunes à Bauduc, hein, à Bauduc, ouais. À une heure de route à Arles. On voit cette topographie de dunes qui produit une asymétrie entre la partie qui est au vent et, ouais. La partie qui est sous le vent.
D'accord.
Et puis on a vu qu'une fois qu'on a cette topographie, on a une différente orientation parce que le soleil évidemment il va de l'est en ouest et du coup avec cette topographie on a créé différents milieux. On a imaginé que le vent après qu'il a passé sur la tour Luma conçue par Fangeri, qu'il allait tomber, qu'il allait creuser même dans le sol. Du coup on a imaginé un étang et ces vecteurs là, la pente, l'orientation, l'épaisseur de terre et l'eau nous a permis d'imaginer les plantes qui allaient s'installer sur ces dunes. Et là, il y a une chose très importante, qu'on s'est rendu compte qu'en fonction de l'épaisseur de terre, on organise la succession écologique. S'il y a peu de terre, on est dans les plantes pionnières, les premières qui... Et une fois qu'on arrive à 1,5 m et je plante un pin parasol, on est 200 ans plus tard. Et du coup, quand on se balade dans le parc et on voit les collines qui sont installées, on va pas dans le passé, mais plus vite dans le futur.
Bien sûr.
Et du coup, il y a une relation espace-temps qui est très différente.
Et finalement, c'est un grand succès. Ça a pris et les gens adorent cet endroit. Il fait frais, il y a des arbres. Et finalement, on comprend mieux votre rapport à la nature.
Alors,
finalement, il ne s'agit pas de mettre de la nature dans la ville, mais au fond, de s'inspirer de la manière dont la nature est créatrice pour faire peut-être ce qu'elle aurait fait.
Et d'aider la nature à le faire. Et par exemple, on travaille sur la température ressentie.
Oui.
On le calcule avec ce qu'on appelle le UTCI, Universal Thermal Climate Index. Ça veut dire que c'est ce que le corps sent. Et c'est pas seulement la température, mais aussi la radiation, l'humidité, le vent. Et du coup, en canalisant le vent, le Mistral, au-dessus de cet étang, on va créer un effet de rafraîchissement.
Oui.
Le fait de créer une pelouse, le fait de planter 80 000 plantes, il y a une évaporation qui va aussi descendre la température ressentie. Et en été, on a calculé qu'au lieu d'avoir 50 degrés, on descend la température ressentie à 30 degrés.
Incroyable.
Et c'est pour ça que les gens, maintenant, ils peuvent aller dans le parc en été.
Voilà, et ce qui est passionnant, c'est que vous êtes architecte, ingénieur de formation et aussi paysagiste, mais on voit bien que finalement, c'est pas que vous changez le climat comme si vous étiez Frankenstein, c'est que vous changez le climat, mais en respectant quelque chose, au fond, du sol qui est là, quelque chose du climat qui est déjà là. On va écouter votre mentor, Michel Conrajou, qui parle très bien, justement, de ce rapport à la nature qui est au cœur de votre travail d'architecte paysagiste.
Bien sûr que j'aime l'idée que la ville soit fertile. Je ne peux pas nier, c'est mon métier. Mais ça m'agace. D'abord parce que c'est aujourd'hui un thème récurrent qui prend de l'ampleur. On a même des gens qui mettent des paillassons avec des plantes sur les façades des bâtiments. Et dans ces paillassons, on injecte des produits pour que ces plantes survivent. Enfin bon, il y a une sorte de folie. Il y a quelque chose de pas bien, enfin que je trouve pas bien. Je trouve que le vivant, plus que la nature, vaut mieux que cela. Et c'est pour ça que je m'intéresserai davantage à parler de comment est-ce qu'on pourrait faire que la ville soit plus vivante. Au fond, ce que la nature nous apprend et qui peut nous permettre de la bien faire, la ville, c'est précisément que dans la nature, il y a des liens extrêmement nombreux, puissants, qui font que les choses sont associées entre elles. Ce qui est important, c'est pas de prendre la nature et de l'apporter en ville, c'est de comprendre que dans la nature, il y a des raisons qui font que les choses tiennent ensemble.
C'est très beau ça, je vous vois sourire en écoutant celui qui fut, je crois, votre professeur.
Oui.
Mais il
oui.
dit, voilà, ce qui est important, c'est pas de mettre la nature dans la ville, parce qu'on pourrait caricaturer votre travail en disant que vous mettez des arbres partout, que vous mettez du végétal dans la ville. En fait, non, c'est de comprendre que la nature crée des relations, des forces, des puissances, du dynamisme, et de recréer ça dans une hybridation avec l'urbain.
Absolument, et il ne faut pas oublier que si on dit changer le climat, c'est les plantes qui produisent un climat.
Voilà.
Du coup, c'est pas la création d'un climat est tout à fait possible parce que c'est les plantes qui le font.
Voilà, c'est la nature qui le fait. La nature que vous aidez au fond.
Exactement.
Alors, Basmet, vous avez remporté, je le disais en introduction, le concours mondial, international, pour réaménager les abords de la cathédrale Notre-Dame de Paris après l'incendie de 2019. Racontez-nous un peu quel est votre projet et est-ce qu'il est aussi radical que celui de Arles ?
Alors d'abord, je veux dire que c'est un effort d'équipe.
Oui,
c'est un grand concours, c'est toujours une équipe. Du coup, on est avec les architectes Grau, on est avec les architectes Neuville-Gayet,
ouais.
avec Ingerop. C'est vraiment une intelligence collective
ouais.
qu'on a rassemblée autour de nous pour répondre à ce concours et maintenant pour dessiner les plans.
Et alors concrètement, ça consiste en quoi ? Ça va commencer en 2024, après les JO. Il paraît qu'il y aura beaucoup d'arbres, que vous voulez aussi rendre cette place aux Parisiens et pas simplement aux touristes. Et avec aussi un peu de polémique, comme quoi vous allez casser quelque chose d'historique. Racontez-nous un peu en deux mots l'essence du projet.
L'essence du projet, c'est de repenser l'espace public comme un lieu de rencontre et ouais. un lieu climatique. J'ai fait le concours juste après avoir terminé Arles. Arles, c'était l'expérimentation ouais. Compliquée, mais qui nous a montré que c'est tout à fait possible d'intervenir dans l'espace public et de créer des microclimats plus agréables pour à la fois les hommes et les animaux.
Ouais. Et les végétaux.
Et les végétaux. Ouais. C'est les végétaux qui le font. À Paris, on s'est dit, si on repense les abords de Notre-Dame, on pense la ville. Et si on repense la ville, on pense la ville climatique, on pense la ville 2050, et il y aura des canicules.
La ville qui va se réchauffer, voilà.
Et comment on prépare la ville, comment on rend la ville plus résiliente, et si on arrive à le montrer sur des espaces aussi emblématiques, aussi importants, aussi symboliques que ceux autour de Notre-Dame, ouais, ça peut devenir un exemple.
Vous avez quand même une grosse pression.
On en est conscient.
Ouais.
Dès le début, on s'est dit, il faut qu'on soit exemplaire sur tout.
Et alors l'idée, c'est quoi concrètement ?
Alors concrètement, on voudrait que ce n'est pas un lieu seulement pour des touristes, mais aussi pour les Parisiens, pour les riverains. Aujourd'hui, les Parisiens évitent ce lieu. On estime qu'il y aura 15 millions de touristes. Du coup, on s'est dit comment on peut créer ce mélange qui caractérise cette ville. Et on a commencé à regarder l'existant.
Oui, c'est ça.
On s'est rendu compte d'une chose assez incroyable, c'est que toutes les figures urbaines qui caractérisent Paris, les mailles, les squares, les places, les berges,
les
jardins, les bancs, tout est là, mais d'une façon, disons, un peu fragmentée. Du coup, on s'est dit, est-ce qu'on peut trouver une forme claire au parvis ? Et on s'est dit, le parvis, il faut qu'il ait la même dimension que l'intérieur de la cathédrale. Du coup, on s'est dit, largeur et la longueur de la cathédrale à l'extérieur.
Oui, c'est beau ça. Ouais.
Ensuite, on s'est dit, les alignements devant l'Hôtel Dieu, on les continue dans la rue du Cloître, et ça va aider à bloquer le vent d'hiver,
ouais.
parce que là, on est toujours à l'ombre, parce qu'il y a l'ombre de la cathédrale.
Ouais.
Et on s'est dit, du coup, c'est une figure parisienne qui augmente le confort en hiver. Ensuite, aujourd'hui, il y a les rampes pour aller vers le parking qui n'est plus utilisé. On bouche les rampes, et on va planter d'arbres en plus, pour créer un peu une mise à distance entre la rue de la Cité, la préfecture de police et le parvis et la façade de Notre-Dame.
Oui, et qui fait aussi un grand champ pour voir la cathédrale de loin, des deux côtés je crois, devant et derrière d'ailleurs.
Exactement. Et du coup il y a une sorte de placette arborée où on peut s'asseoir et avoir cette belle perspective sur la cathédrale. Ensuite il y a les berges de Seine, il y a 400 mètres de berges de Seine qu'on a imaginé comme un parc linéaire continu. Ouais. Et qui termine avec le mémorial de la déportation, qui est un chef-d'œuvre hors commun, et que du coup s'intègre dans ce parcours.
Et je crois qu'en plus de ça, il y a un projet avec beaucoup d'eau. J'ai cru voir l'idée d'un ruissellement qui serait avec de l'eau de pluie récupérée et qui permettrait de rafraîchir le climat.
Alors du coup, on a vraiment imaginé le parvis comme une clairière entourée par ces arbres, et j'aimais bien l'idée de lui donner aussi une identité paysagère, parce qu'une clairière, évidemment, ça parle de paysage, plutôt que de parler seulement de la place. Et cette place-là, elle a 4000 mètres carrés de surface, 40 mètres sur 100 mètres, qui doivent être minérales parce qu'il y a plus de 250 événements par an. Il faut garder la vue sur la cathédrale. Et du coup, on ne pouvait pas planter des arbres. Et je me suis dit, comment amener une fraîcheur? Et du coup, on fait deux choses. On a étudié les vents. Et la Seine amène des vents rafraîchissants qu'on ne bloque pas et qu'on canalise vers le parvis. Et en été, ça va descendre de nouveau cette température ressentie. Ouais. Et ensuite, on s'est dit, comment aller plus loin? Et j'étais inspiré par Paris même, parce que vous avez ce système de réseau d'eau non potable qui a été créé dans le 19e siècle pour arroser les jardins et les parcs, mais aussi pour nettoyer, à l'époque avec un balai, les rues. Et tout le monde le connaît, on ouvre les vannes, il y a de l'eau qui coule. Et au début, je me disais, mais c'est quoi cette eau, en fait? En fait, c'est pas de l'eau potable, c'est de l'eau non potable qui est prise dans les canaux. Et je me suis rendu compte que les jours très, très, très chauds, cette eau-là amène une certaine fraîcheur. Et cette fraîcheur, c'est intéressant, c'est pas l'eau qui fait descendre la température de la place, mais c'est l'évaporation qui va faire descendre la température par réaction chimique.
Et donc, vous allez la faire ruisseler comment, cette eau?
Et du coup, on va créer un caniveau de 40 mètres de long, sur le point haut du parvis, il y a une toute légère pente de 1,5%. Et cette eau-là, sur 5 mm seulement, va descendre très doucement. On peut rester sur place parce que 5 mm, ça mouille pas les chaussures.
Je
seulement les semelles. Et ça va créer une réduction de température ressentie directe de 5 degrés.
On a hâte d'y être. C'est passionnant, Basmette. On va écouter pour l'instant les Beatles, Here Comes the Sun. C'était les Beatles, Here Comes the Sun.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Bas Metz et c'est passionnant. Vous avez remporté le concours international pour réaménager les abords de la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais vous avez aussi fait plein de projets de par le monde, on en a déjà parlé. On vous a entendu, c'était vraiment très étrange de nous parler de ce ruissellement, montrer comment on peut réhabiter autrement ce lieu, aussi comment vous allez végétaliser cette chose. On a compris en discutant qu'il ne s'agissait pas de greffer du végétal, mais de l'hybrider au fond avec l'urbain. Et au fond, au cœur de votre œuvre, il y a ce concept de paysage augmenté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça ?
Oui, j'ai un peu inventé ce mot. Il y a la réalité augmentée, mais aussi le paysage augmenté, pour dire que le paysage n'est pas un décor, mais c'est quelque chose qui produit des effets. C'est un performing landscape en anglais. Et du coup, ce paysage augmenté, j'aime bien le mot parce que du coup, on l'imagine déjà faire avoir des effets importants. Et par exemple, sur un projet il y a 10 ans à Bruxelles, sur un ancien site ferroviaire, j'avais 80 cm de ballast. Ballast, c'est les grands cailloux dans lesquels on met les traverses. Ouais. Et on ne savait pas quoi en faire. C'était trop cher de les enlever. Et seulement, on avait imaginé qu'on peut les enterrer et l'utiliser comme réservoir souterrain pour stocker l'eau. Et du coup, soudainement, les grandes pelouses que j'ai créées sous lesquelles on a mis ce ballast, on peut stocker 1 million de litres d'eau. Et du coup, soudainement, cette idée vient partie intégrante du schéma d'urbanisme, de la construction de bâtiments autour. Ouais. Et ces paysages, il est augmenté, il aide à ce que ce bâtiment autour peuvent être construits. Et il devient aussi beaucoup plus résilient parce qu'on ne peut pas l'enlever. Et du coup, le paysage n'est pas un décor de 5 arbres joliment mis dans un coin, mais devient quelque part l'identité et la structure de l'urbanisme.
Paysage résilient, vous avez dit.
Un paysage augmenté pour une ville résiliente.
Ah oui, c'est ça, une ville résiliente, c'est-à-dire que malgré le réchauffement, malgré la violence, malgré l'usure, elle résiste, c'est ça.
En fait, une ville, on vit pas assez longtemps pour comprendre qu'une ville est toujours en transition. Et d'ailleurs, pour revenir à Notre-Dame, Victor Hugo disait Notre-Dame, c'est un monument en transition.
Ah ouais.
Parce que depuis 1192, on la travaille, d'ailleurs, jamais autant que les dernières années, évidemment. Et du coup, la ville aussi, la ville est toujours en transition et toujours dans une sorte d'équilibre avec les hommes qui l'habitent, les animaux, les plantes. Et il faut travailler sur cette...
aussi, quelques humains.
Oui, c'est des hommes et des humains, je veux dire. Et du coup, en fait, il faut revenir à la base, au départ, une ville, on a coupé la forêt, on a créé une ville, on a créé un mur autour, et du coup, quelque part, on a poussé dehors la nature. Aujourd'hui, il s'agit de la réintroduire et de repenser la relation eau, terre, végétaux.
Ouais.
Parce que c'est ça notre arme contre le changement climatique. Aujourd'hui, ce qu'on fait, ou ce qu'on a fait, c'est qu'on a imperméabilisé nos villes, ça veut dire que l'eau de pluie...
Imperméabilisé,
c'est ça. Ouais. Difficile. Minéraliser les villes, ce qui veut dire que l'eau ne va plus dans la terre,
c'est-à-dire que
la nappe phréatique descend, et même les arbres qui sont là depuis 100 ans, soudainement, les racines n'ont pas accès à l'eau.
Alors que pourtant, il y a de l'eau et qu'il pleut et qu'on pourrait... Voilà.
Une ville, quand on réfléchit à une échelle plus grande, une ville, c'est un réceptacle d'eau magnifique. Toutes les toitures sont étanches, toutes les routes sont étanches. Du coup, l'eau, on sait
En fait. En fait, vous changez de regard, c'est ça qui est très radical chez vous. Vous cassez ce regard-là en disant non, il faut que ça devienne perméable au fond.
Oui, absolument. Et du coup, il faut garder l'eau où elle tombe, il faut créer des... En fait, il faut repenser les rues comme des vallées sèches. Il faut repenser les trottoirs comme des
vallées sèches, c'est joli.
Des vallées sèches qui permettent de prendre l'eau. Et ensuite, on plante des arbres qui remettent cette eau dans l'atmosphère. Et en le faisant, ils descendent la température de nouveau par cette UTCI, par cette température ressentie. Du coup, la solution n'est pas compliquée. C'est juste qu'il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup de choses sous les trottoirs. Il faut repenser. En fait, il faut repenser le sous-sol, il faut créer une sorte d'urbanisme du sous-sol.
Et vous êtes très, très intéressé et passionné par le sol et le sous-sol, soit parce que vous voulez qu'on harmonise l'urbanisme avec le sol qui existe, soit parce que vous voulez créer un sous-sol qui n'existe pas, mais qui permette justement de faire tourner l'eau, et notamment de réinstaurer par le végétal une force de résistance assez massive au réchauffement climatique. C'est vraiment passionnant. Et d'ailleurs, dans tout votre travail, on comprend aussi que dans notre civilisation occidentale, on a un peu méprisé les végétaux. Même dans l'Arche de Noé, dans la Bible, ils sauvent tout le monde, les animaux et les hommes, mais ils oublient les végétaux. Comment ça se fait qu'il y a cet oubli du végétal chez nous occidentaux ?
Parce qu'on est animal, aussi simple que ça. On est animal, on pense comme un animal, on a tous nos instincts sont animal, et on ne pense pas comme les plantes. Et justement, Stefano Mancuso, Emanuele Coccia,
nous aident à mieux comprendre. Un botaniste avec lequel vous avez beaucoup travaillé, justement.
Oui, et Emanuele Coccia aussi, et eux nous aident à mieux comprendre les plantes et le fait qu'il n'y a pas de cerveau centralisé, mais que l'intelligence est partout, en fait, dans toutes les cellules. Et ça, c'est presque comme Internet, une plante. Et c'est ça qui est intéressant, que c'est un autre type d'intelligence.
C'est un réseau rhizomatique, c'est ça ?
Oui, exactement, où l'intelligence n'est pas centralisée, mais partout, vraiment.
Alors, votre façon de faire de l'architecture paysagiste, de penser la ville résiliente et augmentée, le paysage augmenté, fait parfois débat. Et à ce sujet, je voudrais qu'on écoute un de vos contradicteurs.
Ils avaient pensé à installer des cerisiers du Japon tout le long des allées. Tu vois, un peu dans le style cité balnéaire anglaise. C'est une riche idée. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait ? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait ?
Non.
Si, ils l'ont fait. C'était pas mal parti. Mais ils se sont arrêtés là. Et c'est ça qui est dommage. Hein ? Mm-hmm. Tu vois, c'était de la poudre aux yeux. J'ai été observateur, j'ai remarqué qu'on s'est arrêté à un moment et c'est ça qui est dommage. Regarde, qu'est-ce qui te saute la première fois que tu vois ça ? La première chose qui te saute aux yeux ? Les briques. C'est les briques rouges.
Ouais.
Et le rouge, c'est la couleur de quoi ? Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence, hein ? Alors que le fléau de notre société, et tout le monde s'accorde à le dire, est la violence, ils vont te foutre des briques rouges. Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin, mon vieux. Le vin qui dit vin, dit pot de vin.
Ouais.
Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie. Les gens, ils aimeraient pouvoir s'arrêter et dire, tiens, quel beau parterre, quelle magnifique asymétrie, quelle belle tonalité de briques. Mais on ne leur donne pas l'occasion non plus. Alors ils préfèrent rester devant leur téléviseur et c'est dommage.
C'est vraiment dommage, hein, Bas Metz. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument de Benoît Poulvord dans le film, évidemment, on a tous reconnu, C'est arrivé près de chez vous, de 1992. Quand il dit, bah oui, voilà, ces mecs-là, ils plantent des cerisiers du Japon au milieu de la ville.
Que répondre à ça ? La ville n'est pas quelque chose de stable. En fait, souvent, à mes étudiants, je dis, il faut imaginer que quand vous vous baladez dans une ville, tout ce que vous voyez a été pensé, conçu, dessiné, débattu, ensuite construite. Ça veut dire que tout ce que vous voyez aurait pu être différent. La brique rouge aurait pu être beige. La fenêtre aurait pu être une porte. La toiture aurait pu être un jardin. Et dès que vous commencez à comprendre que tout ce que vous voyez est une invention de l'homme, tout devient un peu instable, tout commence un peu à bouger, et ça veut dire que soudainement on peut dire, si j'enlève ce bâtiment, peut-être je peux faire ça, si je fais... Et moi j'appelle ça hacking, on rentre dans la logique de la production d'une ville ou de la production de l'homme, et soudainement on comprend que tout peut être différent.
Mais d'ailleurs, c'est ça qu'on imagine assez fou dans votre travail. C'est qu'au début, quand vous avez un projet, vous avez fait beaucoup de choses à Londres, plein de choses en Belgique, en Albanie, enfin, dans plein d'endroits. Au fond, au début, vous devez avoir un champ des possibles quand même très, très ouvert. Comment on fait pour s'engager dans une voie en abandonnant plein d'autres ? Il n'y a pas un vertige comme ça du possible au début du travail d'archi ?
Non, parce que pour moi, la première chose qu'on fait, c'est qu'on ne dessine pas. On redessine l'existant pour le révéler et on le fait sans intention. Parce que dès qu'on a une intention, on va prouver qu'elle est juste. Du coup, on essaye pendant quelques semaines de ne pas avoir d'idée. C'est très
beau,
difficile.
Ça, ouais. Vous dessinez et ce qui est déjà, en fait.
On redessine, mais couche par couche, élément par élément. La topographie, l'hydrographie, les arbres, les bâtiments, la voirie, les parcelles, le climat. On essaye
d'accepter ce qui est.
Avoir une approche analytique scientifique, le plus scientifique possible. Du coup, on dessine ce qui est, le pays, si tu veux, si je reprends Alain Roger. Et ensuite, il y a quelque chose qui se passe, et ça, c'est l'intuition. Sur place, on reste animal, on sent les choses, on sait où est l'eau, on comprend la topographie d'une façon intuitive. Et du coup, le moment que cette approche analytique et cette approche intuitive se joignent, là, il y a un projet.
Donc on accepte le pays, et puis on se dit qu'est-ce qu'on va faire comme paysage.
Exactement. Et il y a le paysage in visu et le paysage in situ. Ouais. Le paysage in visu, c'est un plan, c'est quand on dessine un projet, on crée, on transforme le pays en paysage sur papier, et ensuite on le construit. Et ça, c'est in situ qu'on produit cette transition.
Les auditeurs ne vous voient pas, mais vous êtes complètement habité. Votre œil devient brillant quand vous distinguez comme ça le dessin de ce que vous allez faire réellement après en le créant. Et aussi, quand je vous entends, ça me fait réfléchir à ce que c'est que la créativité en général. Au fond, on a souvent une illusion, le leurre d'une création qui se ferait ex nihilo. Comme ça, on romprait, on ferait du passé table rase et on serait un démiurge. En fait, ce n'est pas du tout ça. Toute création ressemble à la vôtre, on part de ce qui est, on le réagence, on part de l'existant. Au fond, c'est presque anti-moderne, au sens où on définit souvent le moderne comme celui qui casse avec le passé et qui inaugure quelque chose d'absolument neuf. En fait, ce que vous nous dites en tant qu'architecte paysagiste, c'est que ça se passe pas comme ça. En fait, peut-être que c'est ce que voulait dire Barthes quand il disait « nous avons compris que nous ne pouvons plus être modernes, au fond ».
Oui, il s'agit de changer la perception des choses.
Mais en partant de l'existant quand même,
toujours,
en
oui.
respectant quelque chose qui est là, le climat, le sol, quelque chose.
Oui, mais sans avoir peur de le modifier. Et c'est justement cette compréhension profonde de l'existant qui nous permet de le modifier d'une façon. En fait, je reviens sur le hacking ou l'acupuncture.
C'est pas pareil.
Trois choses.
Nous, on imagine que le hacker il casse les codes, alors que l'acupuncteur il y va doucement en respectant les forces en présence. C'est pas pareil.
Oui, c'est plus acupuncture.
Ouais.
Mais le hacking, c'est parce que j'essaie de voir la réalité, un peu comme dans le Matrix.
Matrix, ouais, bien sûr.
Où on comprend qu'il y a une sorte de logique derrière les choses, en fait.
Alors on va inventer ensemble, si vous êtes d'accord, Bas Metz, le concept de hacking poncture.
Très bien.
Et on va écouter.
Acupuncture.
C'est ça, hacking poncture. Et on va écouter, pour faire résonner ce beau concept, mais je réclame 50% des droits, la belle voix de Camélia Jordana, Je reste calme.
Sous le charme, à l'intérieur comme au bord des larmes, tu sais que je me blâme, dedans des flammes. J'ai mon drame, c'est ton innocence que je clame.
Je clame.
J'ouvre les vannes à mes envies profanes. Je reste calme, mon pouce s'envole et s'accole entre nous. Je reste calme, le souffle court, je sens mon cœur. Ils sont mon phare. Tu sais que je me garde des joies du hasard.
Je sens mon cœur à bouger. Sans secret, sans remords. Moi j'ai peur, j'ai la peur. Plus d'un pour ta bouche, j'en perds les arts. Ta douceur me suit.
C'était Camélia Jordana, Je reste calme.
France Inter, sous le soleil de Platon.
Nous avons toujours l'immense chance, ce matin de Noël, d'être avec l'architecte paysagiste, l'étoile montante du paysagisme mondial, Bas Smets. Et vous nous racontiez tout à l'heure à quel point on avait souvent oublié le végétal. Mais le végétal, c'est aussi quelque chose qui permet de transformer l'énergie du soleil en autre chose.
Oui, il y a Emmanuel Ecoche, on parle parfaitement dans son livre La vie des plantes.
Ouais.
Il dit tous les végétaux transforment l'énergie solaire en matière.
Ouais.
Qu'ensuite les animaux mangent, comme nous d'ailleurs, mais on a oublié que c'est ces plantes qui produisent l'oxygène, qui produisent à la fois ce qu'on respire, ce qu'on mange, ce qu'on porte, et c'est juste magnifique. Et du coup, l'idée de ramener ça dans les villes, ça veut dire aussi, en fait, il y a quelque chose d'assez étrange, que ce qu'on appelle environnement, c'est comme si ça nous entoure. En fait, l'environnement, c'est nous aussi. Du coup, il faut reproduire.
Le mot ne va pas, oui.
Le mot ne va pas du tout. Il faut mieux parler du milieu, parce que ça au moins...
Le climat, peut-être. Microclimat.
Ou microclimat. Ouais. Mais c'est drôle que du coup, on a toujours poussé les plantes très loin de nous, tandis qu'on en vit.
Ouais, et d'ailleurs, on voit bien que pour que la ville de demain soit résiliente, il va falloir la végétaliser, mais vous dites très bien, attention, hein, il ne s'agit pas de verduriser l'urbain, mais de penser réellement l'hybridation.
Et d'ailleurs... Et juste pour que vous rendez compte, chaque feuille compte. Il faut se dire, chaque feuille compte, parce que chaque feuille, c'est le CO2 retiré de l'atmosphère pour créer une machine qui produit du climat. Du coup, chaque feuille aide à le faire.
C'est bien, on a bien noté. Mais juste pour revenir à autre chose de passionnant de votre parcours, vous êtes aussi enseignant, professeur, et vous avez un cours très particulier à Harvard. Vous expliquez à vos étudiants, avec à chaque fois l'exemple de villes différentes, comment on va faire pour que la ville soit résiliente, comment la ville va pouvoir nous permettre de supporter le réchauffement demain. Et là, en ce moment, votre cours est sur Paris. Alors dites-nous comment il faut faire à Paris.
Alors on a eu le final reviews, ou les jurys, la semaine passée à Harvard. Et en fait, ce que je demande aux étudiants, j'en ai 12 à chaque fois, et je fais ça chaque année sur une autre ville. Mon cours s'appelle Biospheric Urbanism, l'urbanisme biosphérique.
Ouais.
Et je demande à mes étudiants d'imaginer ce qu'il faut faire aujourd'hui pour rendre la ville résiliente pour 2030, 2050, 2075 et 2100.
Alors,
par exemple,
réponse...
à Paris, on a organisé le travail à 2 degrés de plus, 3 degrés de plus, 4 degrés de plus, 5 degrés de plus. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et ce qui est passionnant, c'est que comme ils ne connaissent pas très bien la ville, ils révèlent l'existant. Je les apprends à faire cela. Et par exemple, ce qu'on a découvert à Paris, et que je ne savais pas, c'est que au nord, il y a évidemment le Montmartre. Et en fait, toute l'eau de ruissellement va du nord au sud. Va vers la vallée, évidemment, vers la Seine. Ensuite, Haussmann, il a construit les boulevards. Et il y a 3 boulevards parallèles. Le boulevard Haussmann, Réaumur et les Tuileries. Ils sont parallèles, du coup, ils suivent un courbe de niveau. Du coup, on peut imaginer qu'on utilise ces 3 grands canyons comme des moments de récupération d'eau, en fait, d'enlever, par exemple, une voirie et de créer une grande fosse dans laquelle on récupère l'eau, on plante des arbres, et toute cette eau-là est utilisée pour le remettre dans l'atmosphère.
Ouais, c'est passionnant. Les 3 parallèlement, donc Réaumur, Haussmann et...
Tuileries.
Et Rivoli, j'imagine.
Rivoli, oui.
Et là, il y aurait comme une petite rivière, un petit canal, quoi.
Oui, ou dans le sol.
Ah, ou sous le sol, éventuellement.
En sous le sol, et c'est les arbres qui remettent l'eau dans l'atmosphère. Mais ça veut dire qu'on crée un lien entre Bois de Vincennes et Bois de Boulogne, à travers ces 3 lignes. Et la même chose se passe de l'autre côté, parce que de l'autre côté, il y a le boulevard Saint-Germain, il y a Montparnasse, et du coup, il y a ce système à Paris. En fait, le problème à Paris, c'est qu'on pense la ville concentrique, mais c'est une vallée. Et ces boulevards montrent que la vallée, elle va de l'est en ouest.
Une vallée, en plus, malheureusement, un peu trop sèche, comme vous l'avez dit, mais on voit ce que c'est que rêver la ville quand on vous écoute.
Et par exemple, un autre avantage de ces boulevards qui va de l'est à l'ouest, ça veut dire qu'il y a toujours de l'ombre. Parce que quand le soleil est au sud, on a de l'ombre d'un côté. Du coup, on s'est dit, 2050, il fait 40 degrés. On peut imaginer ces couloirs comme des couloirs de vie qui relient ces deux grands bois et qui permettent de récupérer toute l'eau de pluie venant de montagnes, si j'ose dire, ou des monts comme celle de Montmartre.
Ouais, c'est très intéressant. Et vous dites aussi, vous avez aussi une réflexion sur quel type d'arbres il faudrait planter pour l'avenir. Alors à Paris, il faudrait planter quoi, par exemple ?
Mico Coulier.
C'est-à-dire
Celtis Australis. C'est-à-dire que ben, il faut prendre en compte qu'on aura 2 degrés au moins. Plutôt 3, et je ne sais pas comment on va éviter 4. Et du coup, c'est très alarmant. je veux dire, sous le soleil de Platon, on sera vraiment sous le soleil. Ouais. Et ce qui veut dire que si on plante un arbre aujourd'hui, on le plante pour au moins 50 ans. C'est quand même le but même qu'un arbre en ville n'a pas une vie très, très longue en moyenne.
Mais l'arbre que vous avez nommé, il vient d'où et c'est quoi le nom ?
On le plante souvent dans le sud. Ouais. En latin, on l'appelle Celtis Australis et en français, on l'appelle Mico Coulier.
D'accord. En anglais. Et il a quelle propriété ?
Il a la propriété il a des petites feuilles. Il résiste très bien à la sécheresse et c'est ça qui compte. En fait, on ne va pas avoir moins d'eau de pluie, mais on va avoir plus d'eau en moins de temps.
D'accord.
Ça veut dire que c'est pour ça que c'est tellement important de stocker cette eau quand elle tombe pour éviter les inondations, mais surtout pour éviter que la nappe phréatique va descendre. Et du coup, c'est un arbre. D'ailleurs, c'est un arbre qu'on plante aujourd'hui dans les Tuileries. On est en train d'augmenter le nombre d'arbres et c'est l'arbre qu'on a choisi aussi dans les Tuileries.
Passionnant de vous écouter. D'ailleurs, je précise pour nos amis parisiens et même pour les autres que c'est vous qui avez planté la cinquantaine d'aulnes qui sont dans la promenade de la Défense et qui ont incroyablement poussé. Je crois qu'ils font maintenant 12 mètres de haut dans le quartier des bureaux de la Défense. Et c'est vrai que c'est une très belle réussite aussi.
Oui, là aussi, c'est
c'était pas du tout évident de faire ça. Hein.
Non, parce que
vous avez eu beaucoup de résistance
à la Défense, justement pour montrer comment marche le processus. En fait, c'est une nouvelle dalle qui est créée au-dessus d'une route ou d'un boulevard urbain. En l'occurrence, le boulevard de la division Leclerc. Ouais. Et du coup, j'étais sur un pont. J'avais très peu d'épaisseur de terre. J'ai dû négocier avec l'ingénieur structure pour avoir 50 cm, mais 50 cm sur 4000 m², ce qui fait 2000 m³ de terre. Et ce qui compte, et c'est ça aussi, il faut comprendre la logique des plantes, la plante n'a pas besoin d'une épaisseur infinie. Il a besoin de volume. Quand un arbre pousse dans les Alpilles, il pousse où il peut.
Ouais,
et du coup, c'est le volume qui compte. Et comme j'avais ce volume continu, j'ai pu planter des arbres que j'avais fait préparer en pépinière pour avoir des mottes plates, parce que j'avais que 50 cm. Et ces arbres-là, en fait, on les a plantés il y a 5 ans. Ils sont devenus très grands, ils sont très, très heureux. Comme on a fait un revêtement avec des joints ouverts, tout l'eau de pluie va vers ce sol vivant. Et du coup, on peut imaginer grâce à... En fait, il faut comparer le microclimat du lieu où on travaille avec une condition similaire dans la nature.
Ouais.
Étudier ce que font les plantes dans cette situation-là et ramener ça sur le site qui est très artificiel. On ne peut pas être plus artificiel que sur un pont
à
la Défense.
C'est pour ça que c'est une merveilleuse réussite et quelque chose d'un enchantement hein, d'avoir réussi. On a l'impression que la nature pousse au milieu du béton de la Défense. Je vous cite, Basmet, une jolie citation de vous qui est une réponse à l'ironie de Benoît Poulvord dans Cette arrivée près de chez vous. Donc c'est vous qui l'avez dit. Construire des parkings, des trottoirs, des nouvelles rues, cela n'a plus de sens. Il faut utiliser, écrivez-vous, Basmet, la force de la nature plutôt que la contraindre pour créer un espace hybride et joyeux. Les hommes doivent changer, pas la nature. Il y a une urgence nationale pour planter des arbres pour notre survie, alors qu'autrefois on expropriait pour une autoroute, on devrait aujourd'hui exproprier pour planter des arbres.
Ça, c'est bien dit.
Ouais, vous ne faites pas que des amis, quand même, j'ai l'impression.
Oui, je ne sais pas.
Il y a eu une pétition signée par près de 60 000 personnes à Paris contre votre projet. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Oui, déjà, il y a beaucoup de fake news dans cette pétition. Il y a beaucoup de choses qu'on m'a dit que j'enlève, que j'enlève pas. Du coup, c'est très politique, ce genre de pétition. Ouais.
Mais on vous reproche quand même de casser la séparation des deux petits parcs qui sont derrière Notre-Dame de Paris, qui sont historiques, et d'enlever beaucoup des bancs historiques de cet endroit, des choses comme ça.
Alors, les bancs historiques, absolument pas.
D'accord.
On garde
ça,
tous les bancs.
C'est,
on n'a jamais dit qu'on allait les enlever. Au contraire, on va en mettre plus qu'il y en a aujourd'hui. Et tous ceux qui sont là déjà, on les garde. Ça, c'est très clair. Ça n'a jamais été question de les enlever. En ce qui concerne la clôture, dans le programme du concours, avait été intégrée la demande d'enlever la clôture. Du coup, on a répondu au programme du concours. Aujourd'hui, on est en train d'étudier différentes pistes, mais ce n'était pas moi qui avais décidé d'enlever la clôture, que ça soit très clair. À chaque fois, quand on travaille dans une ville, on travaille avec, et ici, surtout à Paris, on travaille avec la ville de Paris, mais aussi avec l'État public, avec les diocèses. On travaille avec tous les autorités concernées, évidemment.
Et d'ailleurs, quand on vous écoute, on prolonge aussi indirectement une réflexion sur la créativité. Tout à l'heure, on disait on ne crée pas ex nihilo, mais à partir de l'existant. Et maintenant, on comprend aussi qu'on ne crée pas sans contraintes, mais avec des contraintes.
Exactement.
Quelque part, c'est ce que votre métier révèle aussi.
Oui, et par exemple, pour parler du quai de l'Archevêché, on va enlever les parkings de part et d'autre du quai. Le quai sera seulement accessible par les riverains et les taxis et les bus. Et du coup, on va agrandir le parc. Et surtout, ce qu'on a essayé de faire, c'est recréer le lien entre la cathédrale et la Seine. Et là, il y a une chose très importante qu'on a découvert ou révélée en faisant les études, ouais. C'est que l'axe de la cathédrale, elle va de l'ouest à l'est, vers le soleil qui se lève, mais aussi vers la source de la Seine. Et c'est très beau, ces deux axes, l'eau qui vient de l'est, le soleil qui se lève dans l'est, et qui traverse l'île de la Cité. Et ça on veut trouver aussi ce symbolisme et cette beauté.
C'est beau, c'est très beau, et il y a aussi la relation entre plus spirituelle avec la notion de Dieu. Est-ce que vous l'avez intégré dans le projet ?
Pour nous, l'espace public est un espace laïque, évidemment, mais par exemple...
La cathédrale Notre-Dame de Paris, elle est quand même... On peut pas la réduire à quelque chose de la...
Absolument. Voilà. Et par exemple, le côté ouest, c'est le côté plus mondain, tandis que le côté est, c'est le côté plus spirituel.
Ouais.
C'est le lieu du jardin d'Éden, par exemple. Du coup, on réfléchit en ce moment à planter des arbres qui font référence à ça. Par exemple, un arbre de Judée a un sens, mais peut-être aussi un pain de Bouddha. Du coup, on essaye de cette dualité entre Est et Ouest qui est tellement fort et qui est donné forme entre le chevet, qui est d'ailleurs magnifique, et la façade occidentale. On essaye dans le paysage de renforcer cette dualité.
Voilà, on entend bien votre pensée, votre philosophie de l'hybridation, faire tenir ensemble le matériel et le spirituel, restaurer la relation entre la cathédrale et la Seine. C'était magnifique, Basmed, de vous écouter. C'était un joli cadeau de Noël, enfin j'espère en tout cas pour nos auditeurs. Je vais essayer d'ailleurs pour eux, comme je vais le faire chaque matin pendant 15 jours, de résumer la philosophie de la vie qu'on a entendue ce matin. Je dirais que c'est une philosophie à la fois anti-moderne mais contemporaine. Anti-moderne parce que le moderne veut rompre avec le passé pour créer ex nihilo et vous montrer que l'art de l'architecte paysagiste de savoir partir de l'existant, du sol, du climat, de ce qui est là pour l'améliorer et l'hybrider, mais contemporaine parce que vous invitez des choses extrêmement nouvelles, notamment les végétaux, et comme une force de résistance et dites-vous aussi de résiliente. J'ai envie de dire aussi une philosophie très créative mais aussi scientifique car vous êtes ingénieur de formation et on comprend ce qu'il peut y avoir de merveilleux dans une approche scientifique quand elle conduit ainsi que vous nous y avez invité ce matin, à réenchanter le monde, c'est-à-dire à métamorphoser un pays en un paysage, c'est-à-dire un paysage regardé. Merci beaucoup Basmed de nous avoir accompagnés ce matin. Cette émission a été préparée par Estelle Gap, merci beaucoup Estelle, réalisée par Maria Pasquet, programmée musicalement par Valentine Chaudebois, à la technique ce matin, Lison Berger. Quant à moi, je vous retrouve demain matin à 9h exactement dans la caverne de France Inter, sous le soleil de Platon, et nous serons avec l'aventurier, explorateur et réalisateur Luc Jacquet. Autrement dit, après avoir pensé ce matin comment habiter la ville, demain matin à 9h, nous demanderons comment être au monde. À demain.